Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe Soir Weekend. Honoré de vous accompagner ce soir jusqu'à 20h pour analyser, décrypter ou encore débattre de l'actualité de la semaine. Au programme de ce soir, Laurent Marcangeli, député de la Corse du Sud, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, sera mon invité politique de 18h15. Sur le front des incendies avec Éric Brocardi, ce sera à 19h15. Et puis ça fait débat aussi ce soir, la liberté d'expression est-elle en danger dans notre société ? Pour le moment, il est 18h et vous êtes sur Europe 1, le journal. L'état de santé de Salman Rushdie est en voie d'amélioration. Cela vient d'un communiqué officiel de sa famille. C'est ce qu'il laisse entendre. L'auteur des versets sataniques n'est plus sous respirateur, commence à reparler et n'aurait rien perdu de son humour. L'actualité, ce sont aussi ces incendies qui ont ravagé le pays de la Gironde, au Maine en passant par la Loire et l'Aveyron. Et l'arrivée de la pluie offre une précaire accalmie. Et puis, la tension entre la Chine et les États-Unis va-t-elle remonter d'un cran alors qu'une délégation de membres du Congrès américain est arrivée à Taïwan ce dimanche pour une visite de 2 jours. François Ching-Chung-Wu, le représentant de Taïwan en France, sera mon invité dans ce journal. Et enfin, la Ligue 1, Nice affronte Strasbourg.
Europe 1.
Après l'effroi et l'inquiétude, quelques nouvelles rassurantes au surlendemain de la violente tentative de meurtre qu'a subi Salman Rushdie vendredi dans l'État de New York alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence littéraire. Eh bien, Salman Rushdie irait mieux. Ses blessures sont certes graves, mais son état évolue dans la bonne direction. On fait le point avec Aviva Fried.
Oui, Salman Rushdie n'est plus sous respirateur. Il parle et même il plaisante. C'est en tout cas ce qu'a tweeté un autre écrivain, Atish Tazir, et ce qu'a confirmé l'agent de Salman Rushdie, sans donner pour autant plus de détails sur la santé de l'auteur. Mais c'est une nouvelle qui rassure, alors même que l'enquête sur l'attaque dont a été victime Salman Rushdie continue. L'agresseur présumé, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise de 24 ans, a comparu pour la première fois devant le tribunal hier. Il est apparu vêtu d'une combinaison rayée, blanche et noire, avec un masque sur le visage. Il est poursuivi pour tentative de meurtre et a plaidé non coupable. Le procureur a évoqué une attaque planifiée. Adi Matar avait acheté à l'avance son billet pour assister à la conférence donnée par Salman Rushdie. Il est arrivé la veille, muni d'un faux permis de conduire au nom d'un des leaders du Hezbollah. L'examen de ses réseaux sociaux aurait par ailleurs révélé un jeune homme en admiration devant le régime iranien, ses gardiens de la révolution et l'ayatollah Khomeini, celui-là même qui avait mis à prix la tête de Salman Rushdie en édictant une fatwa en 1989.
Aviva Fried pour Europe 1. Richard Malka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, entre autres, auteur du livre « Le droit d'emmerder Dieu ». Vous êtes aussi l'avocat de Mila, cette jeune femme qui avait été insultée, menacée de mort sur Internet, notamment pour avoir critiqué l'islam. On est encore libre aujourd'hui. Pour paraphraser le titre de votre livre, on a le droit d'emmerder Dieu ?
Ça, on a incontestablement ce droit, en tout cas en France et dans la plupart des pays occidentaux. C'est un droit qui est indispensable pour vivre en liberté. C'est un droit qui nous est reconnu par notre Constitution, par notre corpus juridique. Encore heureux qu'après les Lumières, qu'après la Révolution française, on ait le droit d'interroger toutes les religions et tous les dieux. Une croyance, c'est une fiction à laquelle on a décidé de croire. Chacun est libre de respecter ou pas les fictions en question.
Richard Malka, est-ce que l'attaque de Salman Rushdie, c'est l'attaque de la liberté d'expression ?
C'est évidemment l'attaque de la liberté d'expression, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Cet attentat me fait furieusement penser à la tentative d'assassinat contre Naguib Mahfouz, le premier prix Nobel de littérature arabe en 1994 au Caire, où on a tenté de l'égorger, il s'en est miraculeusement sorti. C'est une attaque contre la culture, contre l'intelligence, contre la réflexion, contre la possibilité d'émettre un jugement critique. C'est un débat intra-islam qui remonte aux sources de l'islam. Est-ce qu'il est accepté d'interroger cette religion par les membres mêmes de cette religion-là? C'est ce débat-là auquel cela fait écho. C'est extrêmement profond et ça concerne l'humanité tout entière.
Bien sûr. Est-ce que dans le contexte général, vous pensez qu'il y a une sorte d'accentuation de ce genre d'événements tragiques en bref, est-ce qu'il y a une mode aujourd'hui de radicalisation de la jeunesse?
Ah ben, malheureusement, on ne peut être qu'un peu désespéré par l'évolution des choses. C'est un lieu commun qui a été constaté par bien d'autres que moi, de dire que depuis une cinquantaine d'années, sous l'influence du wahhabisme, du salafisme, il y a un mouvement de radicalisation de l'islam, dont d'ailleurs les musulmans sont tout aussi victimes que les autres. Il y a une radicalité. Aujourd'hui, il est tendance de dire qu'on ne veut plus écouter de musique, et puis personne s'en offusque, et puis on accueille ça avec le sourire. Il y a une radicalisation des jeunes générations qui n'étaient pas présentes dans la génération de leurs parents et encore moins dans celle de leurs grands-parents. Alors c'est une radicalisation qui va de pair avec une réelle ignorance, le plus souvent, des textes religieux, des différents mouvements qui ont traversé l'islam, des interrogations théologiques. Mais oui, cette radicalisation, il faudrait être aveugle pour ne pas la voir. Les meurtres, les assassinats qui sont causés pour cause de critique de la religion, c'est tous les mois. Au Pakistan, on a lapidé un malade mental. Au Nigeria, on a brûlé vive une jeune étudiante. Ivan Colonna, je suis désolé de le rappeler, parce que on a traité ça avec beaucoup de pudeur et on est passé très vite sur le sujet, a été assassiné parce qu'on lui reprochait d'avoir émis une parole critique sur le prophète Mahomet. C'est des phénomènes qui sont constants.
En tout cas, merci beaucoup Richard Malka d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, l'auteur du livre Le droit d'emmerder Dieu. Restez avec nous, hein. L'actualité nous emmène de nouveau à Taïwan. La tension va-t-elle monter d'un cran alors que une délégation de membres du Congrès est sur place aujourd'hui? À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
8h08, vous êtes sur Europe 1. Merci infiniment de nous suivre. On continue ce journal et l'actualité nous emmène de nouveau à Taïwan avec cette question. La tension entre Taipei et Pékin va-t-elle monter d'un cran alors qu'une délégation de membres du Congrès américain est arrivée ce dimanche à Taïwan pour une visite, attention, qui n'était pas annoncée. Bonsoir, François Ching-Chung-Wu.
Bonsoir.
Vous êtes le représentant de Taipei en France. Cette visite intervient quelques jours après la fin des manœuvres militaires. Ces manœuvres, elles ont été les plus importantes jamais réalisées par Pékin autour de Taïwan. Est-ce que ça ne va pas relancer les tensions entre votre pays et la Chine?
Je crois que c'est la Chine qui est en train de monter la tension et aussi de créer une instabilité régionale et qui inquiète tout le monde. Je pense tout le problème, c'est que avec l'ambition de M. Xi, la pression de la Chine devient de plus en plus forte et la Chine veut accélérer cette conquête envers Taïwan. Donc, je crois que tous les pays sont en train d'essayer de calmer la situation, mais en même temps, on ne peut pas laisser la Chine fixer la ligne rouge. Donc après ces manœuvres militaires, nous voyons une délégation conduite par des sénateurs et aussi des représentants de la Chambre des représentants américains venir. Ils sont six et ils n'ont pas été annoncés. Et non simplement il y a cette visite de la part des États-Unis, je crois que les autres pays européens s'inquiètent aussi beaucoup. Donc bientôt, nous allons avoir aussi les Allemands qui est aussi supposé de venir au mois d'octobre, venant de la Commission des droits de l'homme. Les Anglais aussi vont venir normalement à la fin de cette année. Ce sera pour la Commission des affaires étrangères. Et je crois qu'il y aura aussi, je peux vous lancer aussi désormais, il y aura encore des sénateurs français qui vont venir nous visiter au mois de septembre.
François Ching-Chung-Wu, vous avez déjà dû gérer les conséquences de la visite de Nancy Pelosi. Est-ce que vous croyez en la solidarité des grandes sociétés démocratiques? Est-ce qu'ils ne sont pas ici en train de vous mettre en danger? Et quand Je dis « il », je parle notamment des États-Unis.
Non, je ne pense pas, parce qu'il faut vraiment montrer à la Chine qu'il y a une ligne rouge de ne pas franchir, c'est-à-dire détruire le statu quo. Et ça a été répété à plusieurs reprises. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, c'est d'abord une manifestation non seulement venue des États-Unis, mais également venue d'Europe. J'avais cité la France et les Allemands et aussi les Anglais. La Lituanie aussi nous a montré leur soutien. Donc, le vice-ministre des Transports sont venus en visite il y a quelques jours. L'Estonie et la Lettonie ont annoncé qu'ils allaient quitter le mécanisme 17+1, qui va maintenant devenir 14+1. Donc je pense que tous ces soutiens de la communauté internationale sont très importants pour Taïwan et aussi pour gérer cette crise. C'est montrer, c'est envoyer des signaux à la Chine que le statu quo, maintenant, c'est hors de question de la détruire.
Qu'est-ce que sont venus faire les États-Unis, en particulier ce dimanche à Taïwan? Racontez-nous.
Alors, je pense qu'ils sont venus discuter pour renforcer encore plus de coopération de tous les domaines. Déjà, le vice-ministre du ministère de la Défense américain, Carl, a annoncé qu'il y aura bientôt des bâtiments de guerre américains qui vont traverser le détroit de Taïwan. Mais c'est surtout notre ministre chargé du commerce, M. Teng, qui avait annoncé que bientôt les négociations pour renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et Taïwan vont commencer et se concrétiser. Donc je pense que tout ça sont les sujets que ces sénateurs et ces députés qui sont venus à Taïwan pour parler avec Taïwan, parce qu'ils vont, certes, ils vont rencontrer Mme Tsai, la présidente, ils vont rencontrer notre ministre des Affaires étrangères, ils vont rencontrer tous les responsable politique principal, et je crois que toutes ces négociations et toutes ces discussions pour préserver le statu quo sera les sujets à discuter aussi les plus importants pour cette visite.
L'onde de la Chine est encore présente. Vous aviez déclaré il y a quelques semaines de cela chez nos confrères d'LCI que si la Chine frappe, c'est la fin du monde. Ça veut dire qu'il y aurait une troisième guerre mondiale qui pourrait frapper à notre porte. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire?
Alors, autour de Taïwan, nous avons la première puissance militaire qui est américaine, la deuxième qui est la Chine qui veut nous envahir, et la troisième qui est le Japon. Mais en dehors de ça, je pense que tout le monde est concerné. Parce que Taïwan produit plus de... Ça vient d'être encore publié, je pense, chez Figaro, plus de 60% jusqu'à 70% des semi-conducteurs du monde. Donc si la Chine déclenche une attaque militaire contre Taïwan, toutes ces exportations sont terminées. Et l'autre chose, c'est que la France, l'Europe, tout le monde a aussi beaucoup d'investissements en Chine. Tout ça sont aussi concernés. Quand vous regardez vos investissements en Russie, en Ukraine, la guerre n'a pas simplement atteint vos investissements en Ukraine, mais également en Russie. Donc moi, je pense, ce que je vais dire à la fin du monde, c'est que ce sera l'ordre mondial qui sera complètement transformé. Et en plus, avec toutes les puissances militaires sur place, qui veut le statu quo, je crois, ce sera vraiment un désastre mondial et qu'il faut à tout prix que tout le monde se sente concerné et essayer de prévenir et aussi faire de la gestion pour que cette guerre mondiale ne se déclenche pas.
Merci beaucoup François Chinchongvu. Je rappelle que vous êtes le représentant de Taipei en France. Dans le reste de l'actualité, eh bien, ce sont les incendies et la fin de ce troisième épisode caniculaire de l'été arrive. Mais c'est aussi l'arrivée de la pluie qui apporterait un relatif répit ce dimanche aux pompiers face à ces incendies. Mais les pluies suffiront-elles à irriguer les terres asséchées? On fait le point dans ce reportage de Chloé Lagadou.
Dans la Pinède, la terre et les cendres sont humides. Pourtant, des fumées grises s'échappent encore des cratères formés dans le sol. Un signe que le feu est encore bien présent, précise le capitaine Fuster.
Sur des sols tourbeux sur lesquels on se trouve ici, finalement, la particularité, c'est que le feu a tendance à s'enterrer et à couver avec pas forcément finalement de signes visuels. Et finalement, ça permet après, quand on a des regains en température, de pouvoir avoir des feux qui ressortent quelques heures, quelques jours après. Ouais, parle.
On me déclare un départ de...
La pluie est certes bénéfique, mais à elle seule, elle ne suffit pas.
Ouais, c'est bien reçu, je retransmets. La pluie tombe, donc derrière, oui, ça va s'infiltrer. Mais il faut aussi une action mécanique, il faut retourner la terre. Et ça, c'est du travail vraiment, on va dire, du travail de longue haleine.
Et justement, quelques mètres plus loin, Eva, pompier volontaire, arrose une souche de pin calciné avec sa lance à eau.
Alors là, on refroidit les points chauds qui ressortent. Sous le sol, ça continue de chauffer et on les éteint pour éviter que ça reprenne derrière.
Même si le feu est fixé, les pompiers ne vont pas s'arrêter maintenant. Ils continueront à noyer les sols tant que l'incendie ne sera pas complètement éteint. À Austins, Chloé Lagadou, Europe 1.
Elle est du sport à présent et la Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg est sur la pelouse de l'OGC Nice pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1. On vous retrouve, Frédéric Hélion.
Et on joue depuis 52 minutes ici à l'Allianz Riviera. C'est Nice qui mène 1-0 depuis un but d'Andy Delors inscrit à la 35e sur pénalty suite à un excellent ballon de Calvin Stengs en profondeur à destination d'Amine Gouiri. Et l'international espoir français a été fauché dans la surface de réparation par Niamsi. Un pénalty qui a donc transformé ensuite Andy Delors. Avant cela, les Niçois ont pu compter sur un très bon Kasper Schmeichel, le portier international danois, l'une des recrues phares du mercato azuréen, qui a sorti deux gros arrêts à la 15e sur un tir de Gamero, puis à la 22e sur une reprise de volée du défenseur central Djikou dans la surface de réparation. Deux parades qui ont ensuite permis aux Niçois de se libérer et donc d'ouvrir le score quelques minutes plus tard. On joue depuis la 53e et Nice mène 1-0 face à Strasbourg.
Frédéric Hélion en direct de Nice pour Europe 1. Allez le ciel.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
Plaisir de retrouver Anthony Kazmarek. C'est plus calme demain, c'est ça ?
Plaisir partagé, Jeanne. Effectivement, demain, le temps sera beaucoup moins instable. Il y aura toutefois encore beaucoup de nuages. Trace des orages de ce soir qui sont encore violents dans 7 départements de la vallée du Rhône qui restent en vigilance orange jusqu'à 20h. Donc demain, encore beaucoup de nuages dans un large quart nord-est entre le centre-val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est. Et sous ces nuages, encore quelques averses qui seront là toute la journée et qui seront localement orageuses près des frontières. Mais partout ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies, de très rares averses. Averses qu'on retrouvera uniquement sur les reliefs en cours d'après-midi sur le massif central et des averses orageuses pour les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief Corse. Mais le soleil va briller sur tout le pourtour de la Méditerranée. Il va même gagner jusqu'au midi toulousain et jusqu'au Pays Basque dans l'après-midi. Enfin, un voile de nuages arrivera par la Bretagne en fin de journée. Ça, ce sont les prémices de la dégradation orageuse de mardi, parce que oui, il y en aura une autre mardi. Les températures demain, elles seront respirables au réveil, presque partout inférieures à 20 degrés, sauf dans le sud-est. Et dans l'après-midi, on sera quasiment dans des valeurs normales pour la saison, voire même un peu au-dessus dans la moitié sud. Vous aurez 22 à Lorient, 23 à Brest, 26 à Paris et à Bordeaux, 27 à Lille et à Caen, 29 degrés à Grenoble et encore un très joli 33 degrés pour Marseille.
Merci beaucoup Anthony Kazmarek, on vous retrouvera tout à l'heure après le journal de 19h. À suivre sur Europe 1, Laurent Marcangeli, député de la Corse du Sud, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale et mon invité politique dans quelques petites minutes. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Et mon invité politique d'aujourd'hui, Laurent Marcangeli, député de la Corse du Sud, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Bonsoir Laurent Marcangeli.
Bonsoir.
L'horizon politique, ce sera avec Édouard Philippe ou Emmanuel Macron ?
Bon, je suis membre d'un parti qui est présidé par Édouard Philippe, qui est mon ami, qui est un homme d'État, mais je suis aussi membre de la majorité présidentielle. Donc nous avons un mandat de 5 ans qui vient de s'ouvrir avec un président de la République qui a été réélu et une majorité à laquelle j'appartiens. Nous allons faire en sorte que sa politique soit appliquée et qu'elle réussisse pour la France.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que votre soutien va à Emmanuel Macron, même si votre cœur est à Édouard Philippe ?
Mon soutien va à Emmanuel Macron en tant que membre de cette majorité, en tant que président d'un groupe parlementaire membre de cette majorité, mais mon soutien le plus indéfectible est à Édouard Philippe. Vous le savez, nous le savons tous. J'étais au Havre dès le 9 octobre. Je suis le président du groupe parlementaire de son parti politique. Je suis membre de son bureau politique. Je suis un de ses amis proches et j'ai bien l'intention de le rester.
On va revenir sur vos propos lors d'un entretien au Figaro. Vous avez parlé d'un dépassement politique. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je suis fidèle à ce qu'a créé le président de la République depuis 2017. Le dépassement, c'est essayer de passer au-delà des contingences habituelles, au-delà des partis politiques. Mmh. C'est essayer de défendre une certaine idée de la France, de proposer des projets qui puissent aller séduire d'autres personnes que ceux qui sont à nos plus proches. Et c'est surtout la volonté d'efficacité. Vous savez, je suis aussi élu local dans l'âme. J'ai été maire pendant 8 ans.
D'Ajaccio.
Le dépassement, on le pratique beaucoup au niveau local.
Laurent Marcangeli, donc si une proposition de loi est faite de la droite, de la gauche, du centre ou des extrêmes, j'essaie juste de comprendre, si elle bénéficie aux Français, vous la votez ?
Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si demain un élu de la France insoumise va me dire que le ciel est bleu, je vais être en mal de lui dire qu'il n'a pas raison. Et je suis aussi du même avis lorsque je pense que quelqu'un du Rassemblement national peut demain faire un amendement qui peut être utile dans l'amélioration d'une noix. Si d'aventure cela devait se produire, moi je ne fais pas partie de ceux qui vont avoir le réflexe pavlovien de voter contre pour voter contre.
Est-ce qu'on est là sur l'image de l'horizon? On voit plus loin, on ne voit pas à gauche, on ne voit pas à droite, on ne reste pas au centre, on voit plus loin, c'est la vision?
Ce qu'on essaye de voir, c'est l'intérêt des Français et de la France, et c'est essayer de construire des lois, des projets qui vont dans l'intérêt de la France et des Français.
Mais tout de même, Laurent Marcangeli, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une tension entre les marcheurs et leurs amis, le Modem ou encore Horizon? Vous l'apercevez?
Non, il y a juste la nécessité de se roder dans une assemblée nouvelle, inédite, avec une situation politique très particulière, avec une majorité qui n'est pas absolue mais relative. Et cela demande, je le pense, un travail en profondeur que nous allons réaliser. Nous avons été un peu pris de court par ce début de mandat, avec une session extraordinaire qui a été assez vite, qui a été harassante. Et il faut juste que nous nous adaptions tous ensemble, et notamment les trois composantes de la majorité présidentielle, pour faire en sorte que nous réussissions.
Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, vous n'êtes pas la langue de bois, rassurez-nous. Édouard Philippe, Macron, ils s'entendent bien, ils sont toujours copains.
Nous n'avons pas pour habitude d'être dans la langue de bois, et je peux vous assurer que si demain les choses ne devaient pas aller dans le sens que j'estime nécessaire, je le ferai savoir.
Comment est-ce qu'on remet les Français au cœur du débat, justement? Comment est-ce qu'ils peuvent être plus représentés? Est-ce que c'est grâce à vous, chez Horizon?
Les Français sont représentés par les 577 députés qui ont été élus. D'abord, ce serait remettre en cause nos institutions. Il y a eu un président de la République qui a été réélu au mois d'avril, des députés qui ont été élus au mois de juin.
Et pourtant, Laurent Marcangeli, les Français ne se sentent pas forcément représentés. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez le sentir, vous pouvez le comprendre.
Bien sûr que je l'entends. Bien sûr que je l'entends et je l'entends également lorsque je suis sur le terrain. Je me borne pas à croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ensuite, je crois que c'est les résultats que nous obtiendrons par rapport aux réformes qui seront menées. Ces réformes doivent aller dans le sens des préoccupations premières des Français. On le voit, problématique environnementale, il y a une problématique d'ordre public, il y a une problématique également de pouvoir d'achat. Nous sommes attelés à parler du pouvoir d'achat des Français pendant cette session extraordinaire. Nous avons voté un paquet de mesures très importants et il faudra continuer comme cela à la rentrée.
Alors, on va parler de cette rentrée qui approche à grands pas. Le grand débat de Gérald Darmanin sur l'immigration. Votre position?
Il est utile, il est même indispensable selon moi. Nous voyons bien que les Français veulent que ce débat se déroule. Il y a, je le pense, des réformes que nous devons mener pour rendre la situation plus compréhensible par les Français, parce qu'aujourd'hui cette situation n'est pas toujours comprise. Le fait que des personnes qui ne bénéficient pas d'une autorisation d'être sur le territoire y restent et parfois y commettent même des délits, ce n'est pas compris par les Français. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un débat, l'avoir de manière très tranquille, pas dans l'outrance. Il ne faudra pas compter sur nous pour être dans l'outrance, mais mettre
le doigt
sur les sujets qui doivent être portés. Il y a des sujets qui doivent être portés, traités dans le cadre de la politique d'immigration de la France, et il faut le faire assez rapidement selon moi. Donc je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur.
Mais toute cette émulation autour de ce qui s'est passé à Lyon, autour de l'imam Iquissen, autour de cette volonté de faire appel de la suspension d'expulsion de l'imam devant le Conseil d'État, est-ce que ça pour vous, ça a été fait dans l'hystérisation? Est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce qu'on devait le faire? Est-ce que vous rejoignez ici Gérald Darmanin? Vous auriez fait pareil?
Non, il fallait absolument que cette personne qui a se vante de manière assez régulière de ne pas respecter les lois de la République, fasse l'objet de la procédure que le ministre de l'Intérieur a engagée. Et le ministre de l'Intérieur a mon plein et entier soutien sur ce sujet, ne peut pas accepter que quelqu'un sur le territoire de la République tienne les propos de ce monsieur.
Même si la loi, en tout cas le tribunal administratif, dit le contraire sur le fait qu'on ne peut pas l'expulser en l'état? Très bien.
Il y a des procédures d'appel et il faut en tout cas que le ministre de l'Intérieur, avec son administration, fasse en sorte que cette décision politique, parce que c'est aussi une décision politique, aille jusqu'au bout.
Gérald Darmanin qui a dit que si le Conseil d'État ne lui donnait pas raison, il s'arrangerait pour transformer la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice doit primer sur le tout? Est-ce que la sécurité prime notamment sur nos libertés?
Alors, la justice doit naturellement primer, hein. On ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre de la loi. C'est pour ça que parfois, il faut aussi la modifier, cette loi. Et ensuite, je vous dirais que les libertés, c'est un pays de liberté dans lequel nous vivons. La France est un pays dans lequel on peut faire beaucoup de choses et dire beaucoup de choses. Mais il y a des limites. Il y a des limites à la liberté d'expression, il y a des limites à la liberté d'aller et de venir, il y a des limites à la liberté de se comporter avec les uns et les autres. Pour une bonne et simple raison, c'est que notre liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et elle s'arrête aussi là, parfois, où l'intérêt supérieur du pays est là.
Allez, on continue. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers en France, comme le propose votre confrère, Sacha Houlier ?
Je suis contre. Je suis contre. Je ne voterai pas cette loi. C'est un débat qui est respectable, qui mérite d'être posé. Mais je crois que la notion de citoyenneté est intrinsèquement liée à celle d'électeur. Il faut aller, je le pense, assez loin pour définir le concept d'électeur. Et demain, le fait de l'accorder à tout le monde, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit de nature à rendre ce droit, ce devoir civique plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui.
Donc là, vous rejoignez plutôt les Républicains, Éric Ciotti ?
Oui, mais après, avec des différences dans la manière de s'exprimer. Je vous dis encore une fois, moi, je peux discuter de tout. On peut avoir des débats à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ce débat sera inscrit à l'ordre du jour. Je ne sais pas d'ailleurs si M. Houillet bénéficie de l'ensemble du soutien de son groupe parlementaire pour pouvoir demain déposer cette loi. En tout cas, si elle devait être débattue à l'Assemblée nationale, le groupe Horizon s'exprimera, je m'exprimerai et nous ferons savoir les raisons pour lesquelles nous votons pour ou contre. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, à titre personnel, je parle en mon nom personnel, je ne serai pas amené demain à voter à cette proposition de loi.
On voit ici se dessiner, hein, du côté de Renaissance, l'aile gauche du parti. Avec Gérald Darmanin, on voyait plutôt se dessiner une aile droite. Où est-ce que vous vous situez là-dedans ?
Moi, je suis un homme de droite, je le dis très tranquillement. Je suis un homme de droite qui soutient le président de la République. J'ai un parcours politique qui m'a amené du RPR à LR. J'ai quitté LR il y a de cela 5 ans parce que j'étais, défavorable à la ligne politique qui était définie à l'époque. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un parti qui s'appelle Horizon, qui est un parti plutôt peuplé de femmes et d'hommes de centre-droit qui viennent pour beaucoup de
la même
famille
politique que moi à l'origine. Pour vous, c'est centre-droit, plutôt.
Oui, c'est un ADN de centre-droit, mais toujours encore avec une volonté de dépassement que nous essayons d'incarner tant au niveau local qu'au niveau national.
Est-ce que vous pensez qu'on a raison parfois de faire de lien entre immigration et délinquance ? Est-ce que ce n'est pas un raccourci un peu dangereux ?
C'est un raccourci que je n'apprécie pas parce que quand on parle d'immigration, on ne parle pas que de délinquants. On parle de femmes et d'hommes qui ont choisi ce pays, parfois par obligation, parfois par choix, par amour. Et le fait de mêler immigration à délinquance de manière systématique est, à mon avis, un mauvais débat.
Laurent Marcangeli, ça n'est pas possible pour moi de vous avoir en interview sans vous parler de la Corse. Vous avez été le maire d'Ajaccio pendant de nombreuses années face à la sécheresse. La Corse, là, il lui reste combien d'eau potable, combien de jours ?
Bon, il y a des débats qui divergent. Vous avez des responsables qui disent que ça peut tenir. Vous avez des entreprises comme Veolia qui est installée, qui me disent que les choses peuvent tenir. Mais vous avez aussi des inégalités entre les micro-régions. Vous avez dans le rural plus de difficultés parfois que dans l'urbain et le périurbain. En tout cas, ça pose le problème. Je l'ai posé en ce qui me concerne en tant que candidat aux élections législatives. Je l'ai posé en tant qu'élu régional depuis plusieurs années, et élu local. L'eau, c'est un vrai sujet. C'est un sujet mondial, c'est un sujet français, européen, mais c'est aussi un sujet corse. Et nous manquons aujourd'hui d'installations, d'équipements qui permettent, à mon avis, d'assurer la tranquillité en approvisionnement. Et on le voit bien avec cette période difficile que nous vivons.
Vous allez justement à l'Assemblée nationale, pendant cette rentrée qui a l'air extrêmement chargée, plaider en la faveur de faire attention justement à cette eau en pensant aussi à la Corse, votre patrie quelque part, avec la France bien sûr, car la Corse est la France.
La Corse est la France, comme vous le dites, et puis quand on est à Corse, qu'on y soit tout le temps ou qu'on soit loin d'elle, on a toujours la Corse
dans son
cœur et envie de la défendre. Moi, je vais participer à un processus qui a été initié par le ministre de l'Intérieur avec les élus de la Corse, leurs différentes expressions démocratiques. Naturellement, au-delà des débats institutionnels habituels que nous avons sur la Corse, plus d'autonomie, moins d'autonomie, plus de pouvoir local, moins de pouvoir local, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler à projets structurants. Et parmi ces projets, vous avez toute une programmation hydraulique qui est évaluée, selon moi, à 1 milliard d'euros qu'il faudra peut-être mettre sur la table avec des cofinancements entre l'État et la région.
Alors justement, est-ce qu'en ce sens, vous avez des divergences avec Emmanuel Macron, notamment sur la Corse ?
Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que le président disait sur la Corse, mais je l'ai défendu. Je l'ai défendu dans un...
Vous avez défendu le président, on essaie de comprendre.
Oui, j'ai défendu le président. Alors pourquoi ? Parce que je souhaitais qu'il soit réélu président de la République, parce que je considérais qu'il valait mieux que ce soit lui.
Pourtant, vous n'étiez pas d'accord avec lui, vous venez de nous le dire. Pourquoi le défendre si vous n'étiez pas d'accord ?
Même si je suis élu de la Corse, je vous rappelle que le président de la République, il est élu de tous les Français et de tous les territoires. Et je considérais au printemps dernier qu'il valait mieux qu'Emmanuel Macron fasse un deuxième mandat plutôt que nous nous retrouvions avec Mme Le Pen ou M. Mélenchon.
Donc aucun regret ?
Ah, je n'ai aucun regret, c'est à refaire, je le referai. Je suis très heureux que le président ait été réélu.
Dernière question, parce qu'on arrive sur la dernière ligne droite de cette interview, Laurent Marcangeli. Vous l'avez dit, vous avez aussi la France dans votre cœur énormément, mais la Corse en fait partie. Vouloir le meilleur de la Corse, est-ce que c'est aussi se battre pour son indépendance ou au contraire, pour qu'elle garde son identité corse en restant la France ?
Oh, mais... Cette question, je pourrais même la considérer presque comme une insulte, si je garde mon parcours.
Il y a pas d'avenir, loin de moi de vous insulter, Laurent Marcangeli.
Il n'y a pas d'avenir pour la Corse en dehors de la République. Ouais. Ensuite, la Corse, elle a une part qui doit être prise avec son identité, avec ses spécificités, avec le fait qu'elle soit une île en plein cœur de la Méditerranée. Elle a un rôle à jouer, d'ailleurs, je le pense, au niveau géostratégique et géopolitique. Mais la Corse, elle doit rester dans le giron de la République. Elle doit y trouver sa place, peut-être une place à part, ça l'est déjà. Peut-être faut-il encore y réfléchir, mais non, pas d'avenir pour la Corse en dehors de la République.
Merci beaucoup Laurent Marcangeli d'avoir Merci accepté mon invitation aujourd'hui dans Europe Soir Weekend. Je rappelle que vous êtes le député de la Corse du Sud, mais surtout le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous.
Europe Soir Weekend. Jeanne Baron.
À suivre sur Europe Soir Weekend, la France brûle, les températures caniculaires se multiplient et les pompiers n'ont plus les moyens d'affronter. Dans un instant, Éric Brocardi sera mon invité tout de suite après cela. Il est 19h et vous êtes sur Europe 1. Bonsoir François-Xavier Lambert.
Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir de bonnes nouvelles sur le front des incendies.
Les feux sont désormais fixés en Gironde et en Aveyron. Grâce à la pluie, des milliers de personnes évacuées vont pouvoir regagner leur domicile. Nous serons en direct de l'Andiras dans un instant. Dans ce journal également, tension maximale à nouveau entre la Chine et Taïwan. Des bateaux militaires chinois patrouillent au large de l'île après l'arrivée à Taipei d'une délégation de parlementaires américains. L'appel de détresse du maire de Zaporijja en Ukraine, selon lui, les risques d'un accident nucléaire augmente de jour en jour. Et puis les sports en Ligue 1, Nice et Strasbourg se sont neutralisés un but partout. Ce soir, Brest reçoit Marseille à partir de 20h45.
Un œil sur la météo avec vous, Anthony Kazmarek.
L'alerte aux orages est levée ce soir dans la vallée du Rhône. Demain, retour au calme et encore quelques averses orageuses dans un large quart nord-est. Les températures partout raisonnables, 22 à 29 degrés et encore 30 à 33 autour de la Méditerranée.
Europe 1. La pluie a donc été une alliée décisive pour les pompiers en Gironde.
C'est en effet la bonne nouvelle ce soir. Le feu est enfin fixé dans la région de l'Andiras. Après plusieurs jours de lutte, les soldats du feu ont pu bénéficier des précipitations sur la région. Les pompiers vont désormais rester mobilisés pour éviter l'apparition de nouveaux foyers. On retrouve en direct sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Chloé Lagadou. Bonsoir Chloé.
Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous.
Le soulagement est palpable autour de vous ce soir.
Eh bien oui, là ce soir, on sent vraiment le soulagement chez les pompiers, aussi bien français qu'européens. Tout le monde a le sourire. Certains se servent une bière et d'autres, comme les pompiers allemands, chantent à tue-tête autour d'une table. Et les soldats du feu français ne sont pas les seuls à souffler un peu ce soir. Il y a aussi les 8000 habitants évacués qui peuvent rentrer chez eux dès maintenant. Alors pour l'occasion, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic, a tenu à remercier chaleureusement les pompiers.
Nous sommes évidemment très satisfaits. C'est une nouvelle qui nous permet évidemment de pouvoir à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont combattu ce feu d'arrache-pied, pain par pain parfois, comme une véritable guerre. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir bénéficier d'autant de mobilisation, autant de courage et autant d'envie d'y arriver. Et la nouvelle d'un feu fixé est toujours une bonne nouvelle. Par contre, je peux vous assurer que la prudence et l'envie d'aller au bout, elle est permanente.
Et oui, le sous-préfet appelle tout de même à la prudence. Il est bien sûr toujours interdit de se rendre dans les zones où le feu n'est toujours pas éteint.
Merci beaucoup Chloé Lagadou, envoyée spéciale d'Europe 1 en Gironde. Autre bonne nouvelle ce soir, l'incendie est aussi fixé en Aveyron. C'est ce qu'annonce la préfecture alors que le feu a détruit plus de 1300 hectares. Un millier de personnes évacuées ont été autorisées à regagner leur logement ou leur lieu de vacances. Écoutez les précisions du commandant Stéphane Coulon, porte-parole des pompiers de l'Aveyron.
La situation est, on va dire, une évolution favorable. La pluie est arrivée, alors pas forcément sur tout le secteur. En tout cas, c'est sous forme orageuse. Donc, en fait, voilà, il y a des pluies plus ou moins marquées sur le secteur, mais ça a certainement contribué à un retour à la normale. Ouais. Le feu est dans une situation beaucoup plus favorable. On désengage des moyens matériels et humains dès ce soir.
Stéphane Coulon, porte-parole des pompiers de l'Aveyron. Il était joint par Nina Droff. Et puis, toujours sur le front des incendies dans le Jura, plus de 1050 hectares de forêt ont été réduits en cendres cette semaine, selon la préfecture. Les pompiers peuvent toutefois compter sur l'aide, là encore, de la pluie tombée ces dernières heures dans la région.
Et la lutte contre les incendies sera justement l'objet d'une grande concertation autour du président français.
Oui, Emmanuel Macron réunira l'ensemble des acteurs des départements concernés une fois les feux éteints. La date n'a pas encore été précisée par l'Élysée. Et cette réunion sera aussi l'occasion d'évoquer les conséquences des incendies dans les forêts touchées. Pour les acteurs du monde forestier, il faut reboiser rapidement ces zones. Concrètement, Solène Leroux, comment est-ce que cela fonctionne ?
Tout d'abord, il faut définir s'il est possible de valoriser le bois brûlé en le vendant pour financer en partie la nouvelle forêt, car le reboisement a un coût entre 4 et 5 000 euros par hectare dans l'Hérault, selon Francis Cross, président des communes forestières d'Occitanie.
C'est très variable. Il y a la protection des petits plants, il faut mettre des filets. Il y a le prix également des essences à planter.
C'est l'étape suivante, bien sélectionner les espèces à replanter, idéalement 4 ou 5 essences différentes entre résineux et feuillus, par exemple des cèdres, des pins ou encore des hêtres ou des châtaigniers.
Et puis on espère qu'au bout de 30 ans, 40 ans, voire au-delà, l'évolution du climat fera qu'il y aura eu peut-être deux essences qui seront toujours présentes sur ces territoires.
Un choix déterminant pour l'écosystème forestier, explique Annie Avril, responsable de la communication des projets forestiers chez Reforest Action.
L'objectif, c'est vraiment de planter des arbres qui vont être à la fois adaptés au climat de demain, dans un contexte de changement climatique, mais aussi aux conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire aux conditions du sol et du climat spécifique à la région où se situe la parcelle.
Une diversité nécessaire, alors que près de la moitié de la forêt française est constituée d'arbres d'une seule essence, selon l'inventaire forestier national. Pour qu'une forêt retrouve son aspect pré-incendie, il faut compter entre 20 et 30 ans.
Les explications de Solène Leroux pour Europe 1.
Allez, on marque une petite pause dans ce journal. Juste après la pub, nous parlerons de l'arrivée à Taïwan d'une délégation d'élus américains. La situation est à nouveau très tendue avec la Chine. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h. Jeanne Baron.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Courrier international présente l'Atlas des énergies de demain. La guerre en Ukraine et les événements climatiques révèlent les failles de notre système énergétique. Quelles seront les solutions durables des 30 prochaines années? Les investissements des États, cartes, infographies et bien sûr l'œil de la presse étrangère dans l'Atlas des énergies de demain. Un hors-série de Courrier international en vente maintenant.
Burger King.
Alors c'était bien chez Burger King?
Super, mais alors impossible de se rappeler le nom du menu. Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Léo.
Ah oui, c'est le menu.
Mais si, tu sais, le menu enfant à 4 euros là.
Ah oui, le menu.
Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 euros. Menu King Junior avec jouet à 4 euros, prix conseillé. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Les tensions sont à nouveau très fortes entre la Chine et Taïwan ce soir. Une délégation de parlementaires américains est arrivée sur l'île. Une visite qui n'était pas prévue et qui doit durer jusqu'à demain. 5 élus du Congrès américain vont rencontrer le président taïwanais. Ces rencontres surviennent seulement quelques jours après la fin de manœuvres militaires chinoises consécutives à la visite de Nancy Pelosi à Taipei il y a 2 semaines. On retrouve en direct de Pékin notre correspondant Sébastien Lebelzig. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Sans surprise, l'armée chinoise réagit ce soir au large de Taïwan.
Oui, écoutez, juste après l'arrivée de ces parlementaires américains, tout à l'heure à Taïwan, 22 avions et 6 navires de guerre chinois sont entrés immédiatement en action. Ils ont été détectés en opération autour de Taïwan. Certains ont franchi la ligne médiane, la démarcation non officielle entre Taïwan et la Chine. C'est la première réaction militaire à cette visite qui, évidemment, pour Pékin, a tout d'une nouvelle provocation. Elle prend de court quand même la diplomatie chinoise qui ne s'attendait pas, il faut le dire, à une telle visite 10 jours seulement après celle de Nancy Pelosi à Taïwan, qui avait mis le feu aux poudres et provoqué de vastes manœuvres militaires et un blocus de l'île de Taïwan pendant quasiment une semaine. Alors la presse ce soir à Pékin tire à boulets rouges hein, sur les États-Unis. Les politiciens américains ne se soucient pas du tout du bien-être du peuple taïwanais. Ce qui les intéresse, c'est de contrôler Taïwan et d'utiliser l'île pour supprimer la Chine. C'est ce qu'on peut lire ce soir dans les journaux ici, comme le Global Times, le quotidien porte-voix du Parti communiste chinois.
Sébastien Lebelzi, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Concernant justement la réaction chinoise ce soir, le scénario d'une invasion de Taïwan semble pour l'instant peu probable pour Marie Holzman. Elle est spécialiste de la Chine contemporaine.
On assiste à un véritable changement d'attitude. Les Américains semblent nous dire que visiter Taïwan, c'est quelque chose qui doit être tout à fait naturel. Évidemment, la Chine ne va pas réagir de façon enthousiaste, mais Xi Jinping, son obsession, c'est le mois de novembre et son maintien en poste pour les 5 prochaines années à venir. Il va certainement mesurer l'impact qu'aurait un retour des menaces contre Taïwan dans sa propre popularité au sein de ses partisans. Et je pense qu'ils n'iront pas beaucoup plus loin que de recommencer des manœuvres menaçantes autour de Taïwan, mais on ne va pas au-delà d'une ligne rouge qui serait évidemment l'éclatement d'une guerre. Ce serait une catastrophe pour la région, pour le monde et, à mon avis, pour Xi Jinping aussi.
Marie Holzman, spécialiste de la Chine contemporaine, interrogée par Nina Droff.
Autre situation très tendue ce soir en Ukraine, la menace d'un accident nucléaire plane toujours sur la centrale de Zaporijjia.
Les risques augmentent chaque jour, assure le maire de la ville où se trouve ce site stratégique. Cette déclaration survient alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir tiré très près des réacteurs. Pour Carole Grimaud, fondatrice d'un think tank sur le monde soviétique, les deux camps tentent de brouiller les pistes.
Ce chantage-là nous fait penser bien sûr au chantage qui avait dominé toute la période de Mariupol de part et d'autre, du côté ukrainien comme du côté russe. On se renvoyait la balle sur les accords de cessez-le-feu avec un risque accru que des réacteurs ou bien que des bâtiments à côté des réacteurs prennent feu et provoquent une catastrophe non seulement pour l'Ukraine mais les pays voisins bien entendu. Maintenant, nous n'avons pas d'informations sur l'origine des tirs. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas d'images satellites de ce qui se passe à Zaporijjia. Les états-majors pourraient certainement clarifier la situation et dire de quel côté sont partis les tirs. On est dans une situation très complexe où finalement, si jamais un accident se produit, il sera bien difficile de savoir qui est véritablement le responsable.
Carole Grimaud, fondatrice d'un think tank sur le monde soviétique, elle était interrogée par Louise Douillet.
Et les nouvelles sont rassurantes pour Salman Rushdie.
L'auteur britannique est sur la voie du rétablissement. Selon son agent, 2 jours après avoir été poignardé lors d'une conférence, il n'est plus placé sous respirateur artificiel. Sa famille se dit ce soir rassurée. Quant à son agresseur, il a été présenté devant un tribunal. Il plaide non coupable. Toujours à l'étranger, l'incendie d'une église au Caire provoque de nombreux morts parmi les fidèles d'une église copte. Le ministère de la Santé égyptien évoque 55 victimes. Pour l'instant, l'origine de cet incendie reste à déterminer. Il est survenu dans une église située dans un quartier populaire du Caire.
Allez, un peu de légèreté dans ce journal. Quoi de mieux pour se détendre qu'un petit verre de rosé ? Un type de vin que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier.
Oui, plus frais, plus léger que la bière ou le vin rouge, les ventes ont augmenté de près de 10% entre mai et juillet. Notre reporter Margot Faudéré a pu rencontrer des amateurs dans une cave parisienne.
Sourire aux lèvres et jupe d'été, Audrey est une habituée de cette cave à vin. Depuis le début de l'été, elle y fait un stop régulièrement pour acheter une bouteille de rosé.
Pour aller avec un barbecue, ça passe bien, c'est la boisson d'été par excellence. Ça change mes habitudes de vin blanc, là plus rosé cette année. Ouais.
Et Audrey n'est pas la seule à en raffoler cette année. Depuis le mois de mai, un client sur deux qui passe le pas de la porte vient pour du rosé. Candice, caviste dans la boutique, l'a bien remarqué.
Chaque mois, on va avoir à peu près 3 rosés qui sont dans le top 10 des ventes. Côte de Provence, on va avoir rosé Corse aussi, qu'on vend beaucoup ici, et également quelques Languedoc.
Pour elle, pas de mystère, c'est la chaleur exceptionnelle de cet été qui booste les ventes de rosé.
Tout de suite, les gens ne vont plus sur des rouges qui sont très costauds. Ils vont rechercher vraiment la légèreté, puis le côté un peu festif du rosé. La consommation a pas mal augmenté, les gens sortent pas mal. On a un parc juste à côté, donc les gens viennent souvent acheter une petite bouteille et se la boire dans le parc.
En plus d'être rafraîchissant, le rosé est aussi beaucoup plus abordable que d'autres vins.
On va être sur des bouteilles entre 10 et 15 euros, donc on n'est pas non plus sur des tarifs excessifs. Sur des bouteilles de rouge, par exemple, on va plutôt être sur une bouteille avec un prix moyen entre 20 et 30 euros.
Du vin rouge qui, contrairement au rosé, a vu ses ventes diminuer de 8,5% entre mai et juillet.
Le reportage de Margot Faudéré pour Europe 1.
Et le rosé à consommer, bien sûr, avec modération. Allez,
évidemment.
On passe au sport. À nouveau, beaucoup de buts cet après-midi sur les terrains de la Ligue 1.
Et on part tout de suite du côté de l'Allianz Riviera de Nice. Les Niçois, les Strasbourgeois se sont quittés sur un match nul. Un but partout, Frédéric Hélion.
Effectivement, François-Xavier, il va falloir attendre encore côté Niçois et Strasbourgeois avant de décrocher la première victoire de la saison. En Ligue 1, les Niçois avaient pris l'avantage en première période avec un très bon ballon en profondeur de Calvin Stengs pour Amine Gouiri qui a été fauché dans la surface de réparation par Niamsi. Penalty transformé par Andy Delors qui inscrit son premier but de la saison sous les couleurs niçoises. Et puis Strasbourg est revenu en seconde période avec un ballon délicieux d'Adrien Thomasson en profondeur pour Kevin Gamero qui a lobé Kasmer Schmeichel, le porté danois, d'un joli extérieur du pied droit. En fin de rencontre, les Niçois ont poussé, mais Sels s'est montré impérial face à Youssef Attal. Et Schmeichel, le portier niçois, a vu la dernière frappe d'Ajorque passer au-dessus. Nice et Strasbourg restent en deuxième partie de tableau au classement.
Merci beaucoup Frédéric Hélion en direct de Nice. Dans les autres matchs, Reims s'est incliné à domicile, défaite 4-2 contre Clermont. Auxerre et Angers se sont neutralisés 2-2. Toulouse s'est imposé sur la pelouse de 3-0. Score nul et vierge entre Ajaccio et Lens. Lorient, Lyon a été reporté en raison de la clôture du festival interceltique de Lorient. Cette deuxième journée va se conclure ce soir au stade Francis Leblé. Brest-Marseille à partir de 20h45. Match à suivre évidemment en intégralité dans Europe 1 Sport. Et c'est avec vous, Virginie Fulpin, qu'on va tout savoir.
François-Xavier, je sais que vous avez une légère préférence pour l'Olympique de Marseille. Légère, donc ça tombe bien. On va beaucoup en parler de ce Marseille version Igor Tudor. Comment joue exactement l'OM cette saison? Est-ce qu'Alexis Sanchez, la nouvelle recrue accueillie en rockstar, va jouer dès ce soir? Après la victoire contre Reims la semaine dernière, les Marseillais vont-ils enfoncer le clou ou replonger dans le doute? Le début de réponse, c'est donc à 20h45.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. On vous retrouve donc à partir de 20h. Et puis juste un mot en natation, Analia Pigré, championne d'Europe du 50 mètres d'eau, avec un très beau chrono de 27 secondes 27.
Le retour de l'info, c'est avec vous, François-Xavier Lambert, à 20h. À tout à l'heure. Anthony Kazmarek. Le temps, qu'en est-il?
Eh bien, ce sera beaucoup plus calme demain. C'est vrai qu'on a relevé quand même 37 000 impacts de foudre aujourd'hui en France. Ces orages ont été nombreux et parfois virulents. Demain, il restera encore quelques averses orageuses dans un large quart nord-est toute la journée. Sur le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté. Mais partout ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies qui seront de plus en plus belles. Au fil des heures, beaucoup de soleil, même de la Provence au Roussillon et du Midi toulousain jusqu'au Pays Basque. Un voile de nuages va arriver par la Bretagne en fin de journée. Puis on aura encore quelques orages sur les reliefs, notamment les Pyrénées, les Alpes du Sud et la montagne Corse. Les températures seront quasiment partout de saison, voire même encore un peu au-dessus dans le sud. Il fera 22 degrés à Lorient, 25 à Biarritz, 26 à Paris et Bordeaux, 28 à Lyon et à Strasbourg, 31 à Toulouse, 33 à Marseille. Mais j'attire ce soir votre attention sur les journées de mardi et de mercredi. Il est rare que Météo France soit aussi alarmiste, aussi précocement. On attend de violents orages mardi soir entre le Roussillon et la vallée du Rhône. Et mercredi, la journée sera sans doute très pluvieuse, très orageuse. Toujours dans la vallée du Rhône, sur le littoral de la Méditerranée, avec de très gros cumuls de pluie. Et pendant ce temps-là, en Corse, on aura un coup de sirocco avec 36 à 38 degrés et donc un énorme conflit de masse d'air dans le sud-est mardi et mercredi. Donc prudence.
Eh bien, merci beaucoup, Anthony Kazmarek. J'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Vous allez vous coucher là.
Bonne soirée.
Allez, à suivre sur Europe 1. Il fait chaud, on n'arrête pas d'en parler, des températures caniculaires, mais des orages aussi qui peuvent devenir dangereux. Et les pompiers dans tout ça, ils sont sur tous les fronts. Éric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers et mon invité dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Presque 19h18, merci infiniment pour votre fidélité. La France brûle, les températures caniculaires se multiplient, la sécheresse, elle est maintenant fait courant. Et puis les orages qui arrivent aussi, sans compter tous les problèmes du quotidien où les pompiers sont systématiquement sur le terrain. Alors on fait comment? Ça c'est une grande question. Bonsoir Éric Brocardi.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. D'abord, plusieurs incendies. On va faire un point avec vous. Qu'en est-il de la situation? La Gironde?
La Gironde est fixée, ça y est, ça a été déclaré par la préfecture à l'instant.
On ne va pas avoir de mauvaises surprises, le feu de l'Andiras se réveille, les vents et compagnie?
Écoutez, on est toujours pas à l'abri forcément d'une mauvaise surprise. Vous l'avez vu, il y a eu un premier épisode en Gironde, il y en a un deuxième qui a dû se déclencher dernièrement, donc qui a été ravageur. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la situation avec cet espoir d'avoir aussi une aide du ciel dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, vont permettre un petit peu d'accalmie pour les sapeurs-pompiers.
Une parenthèse, Éric Brocardi, pour l'Andiras. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des incendies qui sont maîtrisés et fixés puissent se réveiller.
C'est des phénomènes à la fois naturels, c'est des phénomènes qui viennent aussi être soumis à cette forte sécheresse et ces fortes chaleurs qui, à un moment donné, redéclenchent des incendies. C'était un feu particulier, il y en a certains qui ont appelé ça un feu zombie, parce qu'on ne le voyait pas forcément arriver, puis il était couvant sous le sous-sol. Donc ces feux de tourbe sont extrêmement, on va dire, dangereux pour les sapeurs-pompiers d'une part, et à risque, puisque ça peut permettre à tout moment une vitesse de reprise assez fulgurante, comme on l'a vu.
L'Aveyron.
L'Aveyron, c'est aussi encore un sujet qui est préoccupant encore aujourd'hui.
Sacré sujet. Hein.
On est sur encore un domaine, une topographie qui est bien différente de ce qu'on peut trouver en Gironde. Donc encore une fois, c'est la France aujourd'hui qui démontre encore une fois que les sapeurs-pompiers sont dans la capacité à pouvoir s'adapter sur l'ensemble des territoires avec des techniques qui sont les mêmes, mais qui sont adaptées en fonction, pareil, de la topographie. Mmh. On est sur une zone un peu plus escarpée, montagneuse, au niveau de l'Aveyron, au niveau de l'Ardèche. C'est des conditions difficiles. On était sur des surfaces beaucoup plus plates au niveau de la Gironde, mais qui néanmoins ont pu à un moment donné favoriser les niveaux de propagation assez importants au niveau de ce secteur.
Éric Brocardi, il y a une bonne et peut-être une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il va commencer à pleuvoir. La mauvaise, c'est que les orages égale foudre parfois, donc égale feu, et puis égale aussi inondation.
Inondation, oui. Notre crainte aujourd'hui, c'est ces fameuses inondations. Donc la première des choses, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on réclame, c'est aujourd'hui une meilleure prévention, une meilleure information des populations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est le moment, on va dire, de préparer sa maison à des risques d'inondation potentiels. Tous les départements aussi peuvent être forcément touchés par ces risques-là. Donc aujourd'hui, c'est un appel aussi à la population de prendre en compte, à un moment donné, de s'y préparer. Des exemples très simples, très concrets, quoi faire?
Alors, dites-nous.
Tout simplement, lorsque vous avez des objets précieux ou que vous souhaitez conserver, qui sont actuellement stockés dans la cave, les remonter, parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, le risque aujourd'hui de voir des décès, malheureusement, chez les concitoyens, c'est lorsqu'ils descendent dans les caves et qu'il y a des montées des eaux assez importantes. Donc déjà, si on fait cela et qu'on prépare sa maison aussi à une espèce de, pas de plan d'évacuation, mais un plan de sauvegarde avec ses enfants que l'on fait autour d'un jeu. Mais bien sûr
c'est
qu'il faut
terrible.
En venir. Mais d'autres pays européens le font, donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donner des bons réflexes aux enfants et leur dire attention, s'il se passe ça, privilégiez d'aller vous amuser dans les étages si vous en avez, plutôt que rester sur un rez-de-chaussée et de ne pas s'aventurer dehors. C'est des consignes de base, mais qui, à force, lorsqu'elles seront répétées, peuvent permettre de garder, d'éviter toute victime.
On va revenir à la tribune qui a été écrite par les sapeurs-pompiers de France dans le JDD, mais avant, une dernière chose, on ne fait pas assez de prévention dans notre pays?
Je crois que si aujourd'hui on en appelle à l'urgence, c'est qu'effectivement, parfois, il n'y a pas assez de prévention qui sont effectuées. Ouais. Donc aujourd'hui, les risques sont importants dans tous les domaines, à n'importe quelle situation, on va dire, en termes de température, mais aussi en fonction de la saisonnalité. Donc il y a des risques en permanence. Aujourd'hui, je pense que l'éducation du citoyen face aux risques est quelque chose de extrêmement important.
C'est vital.
Que ce secrétariat d'État à la protection civile permettrait à un moment donné de pouvoir résoudre, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de diluer à l'intérieur, on va dire, de chaque concitoyen à n'importe quel niveau, cette culture-là du risque, de manière à mieux se préparer aux événements pour pas qu'ils ne dégénèrent en risque et
alors,
en crise.
Alors, cette tribune, dans le journal du dimanche, aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Ça y est.
C'est vrai, c'est une
tribune. On se voit depuis un moment, Éric.
Oui, c'est vrai qu'on se voit depuis un moment. C'est
fatigué,
vrai qu'on
n'en
peut plus. C'est vrai que surtout les hommes et les femmes qui sont au sol n'en peuvent plus forcément non plus. Il y a cette espèce de tiraillement quotidien à l'intérieur des centres de secours qui permet aujourd'hui d'essayer de tenter de continuer à armer les véhicules. Aujourd'hui, nous avons des services de la feuille de garde, en fait. Ce sont des services plateformes, des supports extrêmement essentiels qu'on ne voit jamais à l'écran, dont on ne parle jamais, mais qui sont là à décrocher les téléphones pour faire rentrer du personnel, pour les engager soit directement sur le terrain des opérations de proximité comme les casernes, soit directement sur le terrain des grandes opérations comme on le vit actuellement en Gironde. Et donc aujourd'hui, vous êtes soumis à un mode de management et de commandement qui fait qu'à un moment donné, le sujet, c'est de faire rentrer du personnel, mais on s'aperçoit que le réservoir, il commence à bien se vider, voire même il n'en a plus rien. Donc ça veut dire qu'on est en mode dégradé parfois dans des centres de secours qui ne permettent pas de répondre de manière, on va dire, pleine, de manière sereine à l'ensemble des demandes de secours. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu.
Ça veut dire que c'est extrêmement choquant ce que vous êtes en train de nous dire. En réalité, vous ne pouvez pas porter secours au plus grand nombre. Demain, un exemple très clair, on vous appelle le 15. Une grand-mère, par exemple, qui vient de tomber, elle est seule chez elle, elle n'a pas de famille, elle se casse le col du fémur, elle attend combien de temps?
Mais écoutez, aujourd'hui, on est toujours dans une moyenne de 14 minutes entre le décroché de l'appel 18 ou du 112 et l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les secours, sur les lieux d'intervention. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas rompre encore ce niveau, on va dire, d'optimisation de la distribution des moyens de secours.
Déjà 14 minutes.
Déjà 14 minutes, puis c'est entre le moment où on décroche, nous, les sapeurs-pompiers, voilà, qu'on précise le lieu, et ensuite qu'on fait la nature de l'intervention, qu'on déclenche le moyen adapté. Et donc, ce que l'on dit aujourd'hui au niveau de la Fédération, c'est qu'arrêtons de fermer les centres de secours de proximité dans les milieux ruraux, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des feux qui éclatent, c'est forcément des feux qui sont à proximité de petits villages et qui, en termes de réponse opérationnelle immédiate, ont un centre de secours armé bien souvent par des sapeurs-pompiers volontaires.
Puis là, c'est 150 pompiers à la fois. Hein. C'est pas un pas deux.
C'est pas un pas deux, c'est 150 pompiers. Ouais. Comme on le voit là actuellement dans l'Aude, où il y a encore un départ qui vient de se déclencher à l'instant. C'est encore un petit village à proximité qui est fortement impacté et auquel on a fait appel de suite à 150 sapeurs-pompiers, dont les pompiers à proximité. Donc ça veut dire que globalement, la Fédération nationale, au travers de son président Grégory Allione, souhaite arriver à un niveau de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 aujourd'hui. Nous avons encore des personnes qui sont titulaires et qui sont sur liste d'aptitude pour devenir sapeurs-pompiers professionnels parce qu'ils sont lauréats du concours, qui n'attendent que d'une chose, c'est d'être embauchés. Profitons-en pour de suite le faire en réaction immédiate.
Mais pourquoi on ne les embauche pas ? Pourquoi on attend ?
Mais
c'est administratif.
Exactement. Et c'est aussi en termes de budget aussi. C'est pour ça que cette tribune aussi, elle porte aussi à un moment donné une solution en termes d'oxygénation des budgets des moyens des services départementaux, parce que ça ne vous a pas échappé. On est à deux niveaux de financement. On est à un niveau au niveau de l'État par rapport à tous les moyens que vous voyez en œuvre, les moyens aériens, donc de la sécurité civile, et que les services départementaux d'incendie et de secours sont, eux, financés par les collectivités territoriales sur lesquelles on a besoin forcément de s'appuyer, donner de l'oxygène pour pouvoir embaucher, recruter et équiper aussi les casernes. Parce qu'il y a un niveau d'équipement au travers de ce qui a été évoqué dans cette tribune qui aujourd'hui est en souffrance pour une raison simple, c'est que regardez, ne serait-ce que dans l'Andiras, par exemple, lorsque le deuxième feu a éclaté, on était déjà amputé de 40 moyens terrestres avant de pouvoir combattre le feu. Parce qu'il y a eu des conséquences et des véhicules qui ont été mis hors service du fait du premier épisode. Donc ça veut dire que si on n'injecte pas une notion de réalité de l'urgence, ne serait-ce que dans les chaînes de production, mais aussi dans les coupes budgétaires pour oxygéner les collectivités territoriales, ça ne va pas permettre à un moment donné de pouvoir retrouver très rapidement des moyens de lutte contre les feux de forêt, les mêmes qui servent aujourd'hui pour les inondations. C'est-à-dire que le camion citerne feu de forêt que vous voyez, c'est un élément aussi de pompage dans les caves, ou c'est un élément aussi qui sert à sortir des victimes des concitoyens ou des victimes potentielles des inondations. Voilà, par rapport, et de les mettre sur les tonnes et pouvoir les acheminer ailleurs.
Le serpent qui se mord la queue.
C'est exactement ça. Donc on fait un appel effectivement à beaucoup plus d'oxygénation, et je dis, c'est l'oxygénation, pourquoi je dis ce mot ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous savons donner de l'oxygène aux victimes quand nous les rencontrons, quand elles sont mal en point. Aujourd'hui, c'est aux sapeurs-pompiers qu'il faut donner de l'oxygène. C'est ça le plus important. Sinon, nous allons tomber dans une asphyxie dans laquelle on ne pourra plus combattre. Une prise de conscience générale pour pas que aujourd'hui, on reste dans l'urgence. L'urgence, ce n'est pas simplement un mot. Il faut qu'il y ait une continuité dans le développement. Les chaînes aujourd'hui de production de véhicules mettent 2 ans pour sortir un véhicule de camion-citerne feu de forêt pour renforcer la flotte de la Polynésie, par exemple, qui sont nos collègues, à part entière français, et qui aussi ont besoin de matériel humain. Il leur faut 2 ans. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas pris en compte dans les chaînes de production cette notion de priorité par rapport justement à cette modernisation de la flotte et surtout à ce remplacement des moyens terrestres. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, il est là. Donc si on veut continuer à essayer, de pouvoir renforcer notre résilience face aux événements et donc limiter les crises, il va falloir nécessairement continuer à armer, surtout de plus en plus vers le nord de la France.
Vous suffoquez, on l'entend, on le sent, on le voit, on ne peut pas le nier. C'est une évidence. Est-ce qu'on vous entend ? Mais est-ce qu'on vous entend ? Ça n'est pas nous, on le voit. Est-ce que nos dirigeants vous entendent aujourd'hui ? Vous vous sentez écouté, épaulé ?
Il y a des marqueurs forts. Il faut le dire, en toute objectivité, il y a des marqueurs forts, mais qui aujourd'hui ne sont nécessairement pas suffisants. Et c'est vrai qu'on ne veut pas tomber souvent dans cette idée de dire « ils ne sont jamais contents ». Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même si on a eu l'année dernière le Congrès national des sapeurs-pompiers de France, sur lequel le président de la République était venu et a fait des annonces fortes, effectivement, face à l'ensemble des éléments au regard de ce qu'il en est aujourd'hui, elles ne sont aujourd'hui pas suffisantes. C'est un constat de fait.
Aujourd'hui, que des paroles, pas d'actions n'ont pas été tenues.
Des actions ont été faites, mais la nature a pris de court en fait toutes les actions qui ont été prises. Donc ça, c'est une évidence. Ouais. Au niveau du ministère de l'Intérieur et notamment Gérald Darmanin qui est venu sur les différents feux nous rencontrer, c'est effectivement il y a la prise de conscience générale qu'il fallait mobiliser l'ensemble du volontariat. Le volontariat aujourd'hui, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, comme le milieu professionnel chez nous, porte justement depuis de nombreuses années ces sujets-là. Il y a eu effectivement des lois qui ont été votées, notamment en novembre dernier, avec cette fameuse loi Matras, donc qui permettait de valoriser les sapeurs-pompiers, notamment le monde du volontariat et d'une modernisation de la sécurité civile, c'était un fait. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin parce que quand vous construisez une loi, il y a des choses qui sont balayées et qui ne sont pas forcément, on va dire que le résultat final n'est pas forcément le résultat du début qui pour nous paraissait essentiel. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est que la Fédération nationale, en lien avec beaucoup de parlementaires, a toujours produit des documents dans lesquels beaucoup de choses ont été écrites dans différents chapitres, que ce soit la crise naturelle, les crises sanitaires et aussi le secours d'urgence au quotidien.
Et pourtant,
ce n'est pas repris et il faut quand même insister. Nous avons invité le 10 mars dernier l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle des mois derniers pour pouvoir justement s'exprimer sur les questions de protection civile et quelles étaient leurs ambitions. Il suffit d'aller sur pompier.fr, et de regarder la page d'accueil. Toutes les propositions qui ont été faites pour améliorer la protection civile en France, elles sont écrites et en plus, elles prédisaient déjà ce qu'on vit actuellement. Donc, en fait, on n'est pas devin. On fait juste une analyse fine parce que nous, sapeurs-pompiers de France, on représente uniquement 0,003 de la population. Et avec ce 0,003 de la population, nous absorbons 4,7 millions d'interventions.
C'est beaucoup.
Et ça repose sur 251 000, en fait, hommes et femmes du quotidien.
Éric Brocardi, si demain vous craquez, parce que là, vous êtes au bord du craquage, les pompiers n'en peuvent plus. Mmh. C'est la première fois qu'il y a une tribune dans le JDD des pompiers. Qu'est-ce qui se passe? Les pompiers, s'ils s'arrêtent demain, expliquez-nous concrètement, qu'on comprenne, qu'on entende. Faut vous arrêter demain, il se passe quoi?
De manière symbolique.
Oui.
Je pense que, comme on l'a vu encore aujourd'hui sur les feux en Landira, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de maisons brûlées, malheureusement, voire même des victimes. Nous sommes les derniers remparts de la société, en fait. Nous sommes les derniers remparts d'une protection de ses concitoyens. Les derniers remparts, en fait, où, justement, on permet à un moment donné de résister face à différents fléaux, que ce soit au niveau du quotidien. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On appelle les sapeurs-pompiers. Une intervention toutes les 7 secondes. Qu'elle soit parfois en manque de sens par rapport à ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire vraiment porter secours. Nous effectuons effectivement des carences ambulancières, mais parce qu'à un moment donné, il y a un sujet aussi sanitaire.
Bien sûr.
Il y a un sujet qui, à un moment donné, pénalise et ampute nécessairement la réponse opérationnelle de l'urgence, parce que nous faisons autre chose. Donc là, l'objectif, et ça sera très rapide, le ministère de la Santé comme les sapeurs-pompiers de France vont très certainement se rapprocher, parce qu'il y a urgence aussi dans la demeure de ce côté-là. On ne peut pas faire attendre encore des sapeurs-pompiers dans le sas des urgences pendant 4 heures, pendant qu'on les appelle pour armer un véhicule pour aller sur les feux de Landiras.
On ne peut pas être partout.
On ne peut pas être partout. Ce sont les mêmes hommes et femmes qui arment l'ensemble des véhicules. Donc aujourd'hui, la solution est prégnante. Nous sommes ouverts à toutes les discussions et ça va être fait dans un sens. Le Congrès national de Nancy, dans un mois pile, à peu près, à quelques jours près, va permettre à un moment donné d'être une véritable tribune et pourquoi pas un sommet de la protection civile et de l'urgence à laquelle nous invitons le président de la République, comme il a été présent l'année dernière, sur lequel il a fait des annonces de force, et tout l'ensemble des parlementaires. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur qui ça tape aussi. C'est sur les premiers élus, les maires de proximité. Aujourd'hui, ils sont totalement impliqués dans la chaîne de l'urgence et dans l'organisation des secours. Et bien au-delà de ça, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on prend des tribunes pour justement exprimer les difficultés. Exactement, des sapeurs-pompiers.
Une dernière question. On arrive sur la dernière minute de notre entretien. Éric Brocardi, Emmanuel Macron l'a annoncé, il va vous recevoir à l'Élysée. Ça fait quoi?
Déjà, ça veut dire que déjà, c'est extrêmement important pour nous. Ça veut dire qu'il y a effectivement cette prise de conscience générale qui est extrêmement importante et que des décisions vont être fortes. Et nous, on attend des décisions fortes et surtout concrètes. Aujourd'hui, c'est dans l'action. Aujourd'hui, il faut une réaction immédiate. Si nous, sapeurs-pompiers, nous ne sommes pas dans la réaction immédiate, ce sont encore plus de maisons qui brûlent et malheureusement des concitoyens en danger. Donc aujourd'hui, une réaction immédiate de la part du président de la République de la sorte, elle est bienvenue, bien entendu. Et nous allons tous la saisir parce qu'au travers de cela, c'est l'engagement auprès du président de la République de faire quelque chose. Donc qu'importe la couleur, qu'importe la personne, aujourd'hui l'idée c'est que ça remonte effectivement au plus haut de l'État et c'est ce que tout le monde attend quand tout le monde a des difficultés, de manière à nous faire redescendre. Chaque concitoyen qui a une difficulté, parfois prend la plume et écrit directement au président de la République. Donc nous aujourd'hui, c'est ce qui va être fait et c'est une très bonne chose pour mettre tout le monde tout autour de la table, de manière à ce qu'on puisse trouver communément des solutions pour le monde de l'agriculture qui est aussi en tension et surtout aussi pour les sapeurs-pompiers de France.
Merci beaucoup Éric Brocardi d'avoir accepté mon invitation ce soir pour Europe Soir Weekend. Bien évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses et on pense à toutes ces personnes qui ont dû évacuer leur maison et ceux qui sont encore à côté des forêts qui brûlent. À suivre sur Europe 1, la liberté d'expression existe-t-elle encore dans notre pays? Eh oui, c'est une question. On en parle tout de suite.
Europe Soir Weekend. Jeanne Baron.
19h34 est l'heure de notre grand débat d'Europe Soir Week-end. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini, guide spirituel de la révolution islamique d'Iran, édicte une fatwa. Celle-ci vise l'écrivain Salman Rushdie qui vient de publier un nouveau roman. Ça s'appelle « Les versets sataniques ». Cette publication a provoqué la colère d'une partie du monde musulman. Alors pendant 10 ans, l'écrivain doit se cacher, utiliser un nom d'emprunt, vivre sous surveillance rapprochée. Et en 1998, après des négociations, notamment avec la Grande-Bretagne, l'Iran s'est engagé, on va les citer, à ne plus encourager les tentatives d'assassinat contre Rushdie. Et pourtant, avant-hier, lors d'une conférence aux États-Unis, Salman Rushdie est poignardé violemment à la gorge et à l'abdomen. On va donc se poser cette question, la liberté d'expression est-elle menacée dans nos sociétés? Mais pas que la liberté d'expression, la liberté est-elle menacée dans nos sociétés? On en parle avec vous dans ce studio. David Rigouleros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'ERIS, auteur de La République islamique d'Iran en crise systématique, 4 décennies de tourment. Amélie Chélie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran et politologue du monde musulman contemporain, auteur de « Dictionnaire des islamistes ». Et puis dans quelques minutes, 2 autres invités cette fois par téléphone. On dira quand ils seront bien sûr prêts et connectés. Cette question d'abord, la presse iranienne avait écrit « Comment ce suppôt de Satan peut-il encore vivre ?» Qu'est-ce que ça révèle, Amélie Chélie ?
La République islamique d'Iran repose sur une idéologie qui s'appelle le Veloyat-e Fari, c'est-à-dire la tutelle du juriste théologien, et qui, comme toute idéologie, fait une sorte de grand distinguo absolument radical entre le bien et le mal, entre ce qui est licite et illicite. Donc forcément, soit vous souscrivez point par point à l'intégralité de cette idéologie et vous êtes dans le bien, soit vous n'y souscrivez pas, et là vous êtes dans le mal et vous êtes diabolisé. Ça a été de façon très virulente le cas, surtout dans la première décennie de la République islamique d'Iran jusqu'à la mort de Ruhollah Khomeini en 1989. Mmh. Ça a bien évidemment continué après, mais en s'assouplissant. C'est éventuellement, on va dire, dans les années 2010 que les choses ont commencé un petit peu à s'assouplir du fait d'une une nécessité pragmatique, en fait, de réelle politique. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les années 90, on s'est rendu compte que cette fatwa a fait l'objet de négociations qui ont abouti à un assouplissement, c'est-à-dire pas un retrait de la fatwa, c'est-à-dire qu'à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Kamal Khazi, avait expliqué qu'il ne fallait plus encourager la population à respecter cette fatwa. Cependant, en 2006, elle a été rendue perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus attachée à celui qui l'a émise, parce qu'il faut savoir qu'une fatwa meurt en même temps que son émetteur.
D'accord.
Donc elle est perpétuelle, elle a été rendue perpétuelle par un rouage fondamental institutionnel de la République islamique qui est la fondation des martyrs.
Donc elle ne sera jamais levée.
Elle ne sera jamais levée.
Bon. Une fatwa sur la tête de Salman Rushdie depuis 33 ans et aujourd'hui il sort de soins intensifs, il recommence progressivement à parler, il va probablement perdre un œil, hein, et l'usage d'un bras aussi. Est-ce que c'est une victoire de l'obscurantisme, David Rigouleros ?
C'est-à-dire que l'écrivain est presque malgré lui d'ailleurs devenu en quelque sorte l'incarnation de ce qui en Occident fait figure de liberté d'expression en général, voire de liberté tout court, puisque les deux sont généralement associés. Donc c'est un vrai problème de fond, parce qu'il y a un télescopage culturel effectivement sur la conception de la liberté d'expression. Vous évoquiez tout à l'heure la question du Velayat et Fari, c'est-à-dire la prédominance du religieux sur le politique. L'Occident a connu ça, hein, notamment en termes de sur des écrits littéraires ou scientifiques. Il faut rappeler au Moyen-Âge, avec ce qu'on appelait la mise à l'index de cette logique inquisitoriale de l'Église. Et là, on retrouve la notion de clergé, effectivement, et de logique inquisitoriale. Simplement, on n'est plus au Moyen-Âge. Donc, évidemment, pour nous, ça pose un problème majeur.
Bien sûr.
Compte tenu des évolutions sociétales qu'on a connues. Et il y a une régression incontestablement générale, et qui n'est pas propre d'ailleurs au monde arabo-musulman, hein, parce que sur cette question de la liberté d'expression, on voit qu'il y a depuis une trentaine d'années, y compris dans nos sociétés dites ouvertes au sens philosophique du terme, une espèce de d'inhibition sur certains sujets. On le voit avec la culture wokiste, hein, mm-hmm. qui stigmatise, donc et qui est une forme d'intégrisme aussi. Hein. Donc il y a de ce point de vue-là, au niveau général, et c'est très inquiétant effectivement, une forme de régression globale. Évidemment, un auteur comme Salman Rushdie est l'archétype de celui mm-hmm. qui essaie de résister à ce type d'évolution, mais il en est évidemment aussi la victime.
Bien sûr. Pierre Conessa, bonsoir, vous venez de nous rejoindre, vous êtes ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Avec Dieu, on ne discute pas ». Les radicalismes religieux désislamiser le débat, c'est pas évident à dire. Salman Rushdie, il pensait que cette vague musulmane intégriste, c'est important de le dire, intégriste, c'est une autre vague, hein. Allez, voilà. Se calmer. Est-ce que vous pensez qu'il a eu tort? Est-ce que l'intégrisme, c'est un danger qui est toujours d'actualité? Et pire encore, est-ce que l'intégrisme ne s'arrête jamais?
Ah, écoutez, d'abord, ça vous a été suffisamment développé, c'est-à-dire l'hypocrisie du régime iranien est assez surprenante. Prétendre qu'on ne va pas l'appliquer, on ne va plus inciter quelqu'un à venir assassiner Rushdie, ça ne tient pas compte de la nouvelle disposition de la menace terroriste. Vous avez un émetteur idéologique, en l'occurrence c'était Khomeini, et qui 33 ans avant a mandaté un individu, Hadi Matar, là, celui qui a tenté d'assassiner Rushdie, ouais. qu'il n'a probablement jamais connu puisqu'il a que 24 ans. Bon. Donc une fois qu'une excommunication assassine comme ça a été mise, elle peut être récupérée n'importe où sur la planète. Et on a des cas qui ont précédé. Hein. Rappelez-vous quand même que Samuel Paty, Anzorov ne le connaissait même pas. C'est simplement Sefrioui, un autre idéologue qui avait décidé de sa mort. Et donc Charlie Hebdo, pareil, les frères Kouachi, si vous voulez, ne connaissaient même pas Charlie Hebdo. Donc on est sur un dispositif où cet intégrisme islamiste est aujourd'hui lance des mandats et ensuite n'importe qui sur la planète peut décider d'être mandaté par Dieu.
Peut les exécuter en quelque sorte.
Voilà, ouais. Exactement.
Michel Fize, vous êtes sociologue, auteur du livre « Radicalisation de la jeunesse, la montée des extrêmes ». Cette jeunesse, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Ça renvoie aussi à la question de l'obscurantisme, peu importe les religions. On a l'impression qu'on a une jeunesse qui se radicalise. Et que ça passe aussi par les outils qui devraient aujourd'hui nous porter, à savoir Internet, les réseaux sociaux. Comment est-ce que, sociologiquement, on peut expliquer ça?
Mais parce qu'il n'y a plus, malheureusement, de distinction entre la simple opinion que chacun peut tenir, et sur les réseaux sociaux, comme vous le rappeliez, et puis des savoirs patiemment élaborés. Alors, d'ailleurs, si vous me permettez une petite réflexion sur les versets sataniques, ce qui est le comble dans cette affaire, c'est que les versets sataniques ne sont pas une satire contre l'islam. Les versets sataniques sont une sorte de conte philosophique, comme on a pu le voir avec Voltaire dans Zadig, ou Erasme avec son éloge de la folie, ou Thomas More avec l'utopie. Un Salman Rushdie est un musulman qui est ouvert à toutes les religions. Donc finalement, voilà un exemple même dans lequel tombent évidemment beaucoup de gens et de jeunes en particulier. Hein, on va prendre des décisions au vu d'un événement qu'on connaît mal ou d'un livre qu'on n'a pas lu, parce que beaucoup de gens, sinon peut-être la plupart, n'ont pas lu les versets sataniques, hein, et donc partent sur, évidemment, un titre. Voilà. Bon, il est probable d'ailleurs que peut-être si M. Rushdie réécrivait ce livre aujourd'hui, dans un contexte beaucoup plus explosif qu'il y a 33 ans, 34 ans, il choisirait un autre titre, parce que le titre a semé la confusion. Et donc,
oui, d'un
sur
côté les
versets,
sociaux, de l'autre, le rapport à Satan, au diable, les versets sataniques, donc effectivement... On peut vite faire le coup.
On a pris évidemment deux mots sensibles, verset, hein, c'est donc la croyance, ouais. Évidemment, et puis Satan, c'est évidemment ce qui s'oppose à Dieu.
L'incarnation du diable, bien sûr.
Voilà. Ouais. Alors, la difficulté, c'est que beaucoup de musulmans, et de jeunes musulmans en particulier, reçoivent aujourd'hui les critiques contre le prophète comme des insultes, hein, comme une atteinte à leur liberté de conscience. Alors, le fait est, c'est qu'en matière religieuse, la liberté d'expression, elle est très grande, puisqu'elle comprend aussi le droit au blasphème. Donc on est dans une liberté à peu près absolue, enfin, sauf comme à rappeler que l'antisémitisme est condamnable.
Bien sûr. Hein,
tenir un propos antisémite, ce n'est pas une opinion.
Bien sûr.
C'est un délit. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait évidemment apprendre à lire les images, apprendre à décoder des textes, hein, à ne pas prendre pour argent comptable. Vous savez, on est sur un volcan, hein, au sens pas seulement climatique du terme, mais au sens social du terme. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment... une petite flamèche hein, va partir et déclencher oui. un formidable incendie idéologique, social. Voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Amélie Chély, on parlait effectivement de... On ne peut pas tout dire non plus aujourd'hui en France. C'est aussi la limite à la liberté d'expression, notamment sur certaines religions. Est-ce que vous pouvez comprendre, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez expliquer que certains musulmans se sentent stigmatisés ? Ça veut dire qu'on utilise l'image du prophète Mahomet, qu'on ait des insinuations envers eux, qu'on puisse faire des ponts musulmans égale radicalisation, etc. Mm-hmm. Est-ce que ça peut aussi expliquer cette mouvance intégriste plus jeune qui se sentirait peut-être mis de côté de la société ?
Oui, alors il y a en fait en filigrane... on va dire de façon un peu rampante, des idéologies qui sont très diffusées, notamment je pense au frérisme, hein, les frères oui. musulmans, qui jouent énormément sur trois leviers en France. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les frères musulmans, c'est ce qui fait le plus rage, puisqu'on parlait de Samuel Paty, on s'est rendu compte qu'on pouvait de façon un peu plus décomplexée parler des frères musulmans comme étant une confrérie dangereuse, puisqu'elle a fait partie finalement de cette cabale autour de Samuel Paty qui aura poussé Abdullah Khanzorov à prendre les armes. Mais cette confrérie est une confrérie qui est perpétuellement en djihad.
Simplement, c'est quoi le djihad ? Expliquez à ceux qui ne connaissent pas.
Le djihad, d'un point de vue traditionnel, dans la religion traditionnelle, il y en a de trois sortes. C'est le djihad de cœur, c'est le fait de lutter contre ses propres mauvaises tendances. Oui. C'est le djihad de plume, le fait d'aller convaincre les autres de procéder à la même chose. Et puis ensuite, il y a le djihad d'épée, mais qui est extrêmement réglementé et qui ne peut exister que dans certains contextes. En revanche, sous la plume d'idéologues contemporains, notamment de Seyed Qutb, qui est l'idéologue des frères musulmans, on a vu émerger une redéfinition du djihad qui devient djihadisme. On associe le mot « isme » qui finalement investit l'idée d'une idéologie.
Donc c'est l'extrême du djihad ?
En fait, c'est la systématisation d'une lutte
D'accord.
contre l'ennemi qui, pour les frères musulmans, c'est le juif et le croisé. Après, il y a des diphtongues quand on est par exemple chez Daesh, qui est aussi un groupe djihadiste, c'est le chiite, la première cible.
Et c'est qui le croisé ?
Le croisé, c'est les chrétiens. Voilà. Donc, dans ces idéologies-là, on est perpétuellement en djihad. Et ce djihad, nous, occidentaux, on a l'impression qu'il n'existe que quand il y a des vagues de violence. Or, il y a deux temps dans le djihad. Il y a ces vagues de violence, mais qui ne sont finalement que l'aboutissement de longues périodes prédicatives, qui sont un petit peu plus finalement sous les radars, puisqu'elles font moins parler d'elles, mais qui sont là pour tisser dans la société finalement la diffusion d'un certain nombre de discours qui sont haineux. C'est ce qui me permet de répondre à votre question. Ce qu'ils visent, c'est le renversement des discours. C'est-à-dire que où que vous vous trouviez, dans quelque société que vous soyez, il y a toujours un discours dominant, c'est-à-dire celui qu'on peut développer sans complexe, peu importe le public qu'on a devant soi. Et un discours minoritaire qu'on vient censurer soi-même si on ne sait pas à qui on s'exprime. Par exemple, dire « les hommes et les femmes sont égaux », il me semble que je peux le dire sans complexe en France, mais il y a certainement aussi des forces idéologiques qui essaient de faire en sorte que ça devienne le discours minoritaire complexé. Et c'est le cas dans certains environnements, dans certaines écoles, comme on le sait. Il y a des environnements, par exemple, je pense notamment en Alsace, où on ne peut pas faire de cours sur le génocide arménien. Hein, parce que je suis en communication avec beaucoup de collègues professeurs qui m'expliquent comment est-ce que je peux faire et qui me demandent conseil, comment est-ce que je peux faire, parce que je suis dans un environnement où le discours dominant qui est censé être celui de l'explication finalement de ce pan du programme scolaire, je ne peux pas l'enseigner.
C'est extrêmement intéressant parce que j'allais vous poser la question, est-ce que la clé est éducationnelle, mais si même les professeurs sont démunis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? David
oui,
Gouliros.
Oui, en principe la clé effectivement elle est sur le registre éducatif, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un affaissement, justement. Et c'est la capacité critique, en fait, qui est en régression, y compris dans nos sociétés. Et effectivement, alors, selon les pays, il y a une conception plus ou moins élargie de la liberté d'expression. Oui. Par exemple, aux États-Unis et en France, ce n'est pas la même chose. Vous évoquez tout aujourd'hui les limites fournies par la loi. Aux États-Unis, le premier amendement permet de dire exactement tout ce qu'on pense, sans aucune limite. Mais en même temps, il y a des phénomènes effectivement inhibiteurs et un déficit critique. Puisqu'on voit même aux États-Unis des programmes scolaires qui sont critiqués justement par les créationnistes, etc. Mmh. Donc c'est assez général et c'est très inquiétant parce qu'en réalité c'est un travail de sable de ce qui était l'esprit des Lumières qui a mis beaucoup de temps à s'imposer. Et il y a manifestement aujourd'hui, on rentre dans une période beaucoup moins lumineuse.
Oui. Pierre Connaissat, on est dans une période obscure. Notre jeunesse, elle est menacée intellectuellement, structurellement?
D'abord, je voudrais faire remarquer que tout le monde est d'accord sur le retour du religieux qui commence dans les années 70-80. Mmh. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est la poussée des extrémismes et des radicalismes dans toutes les grandes aires religieuses, y compris chez les polythéistes, y compris chez les bouddhistes et chez les hindouistes. Donc ça, c'est un phénomène qui est devenu général. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, parmi les, disons, la disparition de ces pratiques de la défense de la laïcité. Moi, je suis frappé par le jugement du tribunal administratif de Paris qui vient d'annuler l'arrêté d'expulsion de Hyusen.
Alors, que on va le rappeler, juridique... cet imam qui avait été très controversé pour ses prises de position radicales, notamment sur Internet, expulsion demandée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réponse du tribunal administratif qui retoque cela.
La réponse... ordinaire, parce qu'il dit oui, c'est vrai qu'il est antisémite, oui, c'est vrai qu'il est raciste, oui, c'est vrai qu'il est misogyne, mais il n'appelle pas à la violence. Et donc, on ne peut pas l'expulser, mais c'est extraordinaire.
Alors,
parce
c'est
que
pas tout à fait ce qui est dit dans la décision, si je puis me permettre, Pierre Connaissat, c'est plutôt une question...
Moi, je suis ancien juge administratif.
Non, mais vraisemblablement, c'est... Alors, on va vous entendre, parce que vraisemblablement, c'est purement administratif, la loi est faite comme ça. Il ne peut pas être éloigné de sa famille parce qu'il est citoyen français.
Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Il n'est pas citoyen français.
L'argumentaire...
Il est plus citoyen français, il est né en France. Il n'a jamais été. En fait, son père n'a pas voulu que son fils ait la nationalité.
Il a cherché à la...
Oui, mais il est né en France, à Dun. Il a cherché à
l'avoir,
mais il
n'a jamais réussi.
Donc ici, vous êtes tous choqués de cette décision du tribunal administratif. C'est intéressant pour moi de le savoir.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez
paradoxal. David Rigolet-Rose.
C'est quand même assez paradoxal. En plus, il y avait un recours au niveau européen, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a validé la décision
de l'expulsion.
De l'expulsion. Mmh. Donc on pouvait dire que ses droits étaient garantis. Et donc c'est de la part du tribunal administratif français. Ça pose un vrai problème sur le fond, sur la justice administrative. D'ailleurs, il y a un recours au Conseil d'État.
Ouais. Mais il est possible apparemment que le Conseil d'État donne raison au tribunal administratif, hein, Amélie Chély.
Oui, mais ce qui est peut-être un petit peu plus choquant encore, c'est qu'en fait... Un des arguments qui a poussé le tribunal administratif à retoquer la décision, c'est qu'à partir de 2014, il aurait cessé de diffuser des documents vidéo antisémites et qu'en 2015, je crois, il en aurait même diffusé un qui s'excusait finalement de cette question. Or, c'est une stratégie qui est purement frériste de rentrer
ce
finalement.
Que vous nous expliquez tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux salafistes non fréristes, parce que les fréristes sont des salafistes aussi, mais contrairement aux salafistes non fréristes qui, eux, ne sont pas dans le compromis, veulent tout appliquer tout de suite, maintenant, des lois des pieux prédécesseurs, mmh. c'est-à-dire des trois premières générations de l'islam, les frères musulmans, eux, sont dans un assouplissement des choses, de sorte à ce que, quand on est mis en danger et qu'on ne peut pas continuer de progresser pour propager l'idéologie, on a le droit de se cacher, d'entrer dans une sorte de taqiya, c'est-à-dire d'occultation de son appartenance, et donc de revenir et de faire ce genre de vidéos sans que ça devienne illicite d'un
pour
point de vue religieux.
Retaper après.
Exactement.
D'accord. Pierre Connaissant, on vous redonne la parole. Continuez sur ce que vous étiez en train de nous exprimer. Vous disiez que vous aviez été choqué.
Moi, je suis d'autant plus choqué que je suis un ancien juge administratif.
Oui.
C'est-à-dire que quand on applique une jurisprudence, n'oubliez pas que la jurisprudence, c'est quand même une interprétation des textes.
Bon. Mm-hmm.
Or, on avait un homme qui cochait toutes les cases, c'est-à-dire qui était antisémite, homophobe, misogyne, tout ce que vous voulez, qui avait appelé au djihad, etc. Mm-hmm. Et puis qui ensuite, à un certain moment, dit non, c'est fini. N'oubliez pas que c'est un homme qui a renoncé à sa nationalité française quand il est passé à la majorité pour rester marocain, qui ensuite l'a redemandé deux fois, ça lui a deux fois été refusé. Et aujourd'hui, il est effectivement dans une situation d'un type qui continue sur le territoire français, dans une situation illégale, à prêcher des choses qui sont normalement punies par la loi.
Est-ce que là encore, on est sur sa liberté d'expression ? C'est une vraie question que je vous pose, hein, philosophiquement. Est-ce que lui, c'est sa liberté d'expression de tenir des propos qu'on condamne tous ? Mais est-ce qu'on est là-dedans, par exemple ?
La loi française le réprime, puisqu'on sait bien que l'appel à l'antisémitisme, à la misogynie, etc., sont des délits. Le fait qu'un tribunal administratif n'ait même pas retenu la notion de délit est quand même très étonnant.
Et d'après vous, pourquoi, Pierre Connaissant,
C'est à moi que vous posez la question.
Oui.
Ben écoutez, moi, je vais vous citer le dernier exemple que j'ai vécu au tribunal administratif avant de quitter cette fonction. Mmh. Il y avait le cas d'un homme qui était frappé d'un arrêté d'expulsion. Il avait fait du trafic de drogue. Alors, on était après la loi de 81 qui avait modifié l'ordonnance de 45, c'est-à-dire qu'un homme né d'un parent d'un enfant né à France devenait inexpulsable. Bon. Donc cet homme avait effectivement un argument de droit qui aurait pu empêcher son expulsion. Alors, dans le tribunal administratif, vous avez deux dossiers. Un dossier de sursis, c'est-à-dire celui que vous faites passer en urgence, et un dossier au fond, où vous jugez le fond du dossier. Le dossier de sursis, en général, le Conseil d'État considère que l'application de la décision administrative crée un préjudice difficilement réparable, à ce moment-là, il faut y faire attention, puis regarder s'il y a un argument de droit. Or, lui, il avait un argument de droit, et le Conseil a toujours considéré que l'expulsion, évidemment, créait un préjudice difficilement réparable. Mais quand on regardait le dossier de police, on s'apercevait que ce type, non seulement ne s'occupait pas de son enfant, mais en plus, quand il voyait son ex-femme, il a frappé.
Ah, mais il n'a jamais été condamné. Oui.
Sauf que, à l'époque, vous parlez de qui ? Moi, je vous parle de mon cas. Moi, je me suis battu en disant, mais le préjudice, c'est pas à lui qu'on le crée, puisque le droit de frapper sa femme n'est pas constitutionnel. Et donc, il a fallu débattre pendant 3 heures pour qu'à la fin, j'obtienne gain de cause et qu'on ne prononce pas le sursis de l'exécution de cette décision. Et là, vous êtes exactement dans la même situation. Vous avez un homme qui a un dossier lourd.
Mais là encore, pas condamné. Là encore, jamais condamné. Dossier lourd, mais jamais condamné. La loi reste la loi. S'il n'est pas condamné, faut-il faire justice soi-même ? Faut-il transformer la loi ? C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui.
Mais attendez, on ne fait pas justice soi-même. Il y a un arrêté d'expulsion prononcé par une décision publique démocratique ministre de l'Intérieur. Et vous avez un tribunal administratif qui considère que tous les délits qui ont été... Enfin, les excès ou les violations de la loi... Retoque cette décision. Donc on va voir, moi je vous parle après une longue discussion avec un conseiller d'État qui est choqué comme on ne peut pas l'imaginer. Voilà, donc on va attendre la décision du Conseil d'État, mais enfin il reste que la justice se discrédite quand on est face à ce genre de choses.
On va revenir, si vous le permettez, sur la liberté d'expression. On a tout à fait entendu ce que vous dites, hein, Pierre Connaissat. Michel Fiz, est-ce que, j'aimerais revenir là-dessus, est-ce que quand on tient des propos qui sont parfois extrêmes, à l'inverse de Salman Rushdie, qui lui est un écrivain qui pouvait écrire ce qu'il voulait, à l'inverse de J.K. Rowling qui se dit ce soir menacé, à même enseigne que Salman Rushdie, est-ce que quand on est par exemple cet imam, sans vouloir encore faire de la justice, mais on utilise aussi sa liberté d'expression pour pouvoir, à foison, tenir des propos extrêmement condamnables.
Mais on voit toute la difficulté de définition de ces grandes notions qui caractérisent nos sociétés démocratiques. Liberté d'expression, selon le domaine, selon la personne, évidemment, on va l'interpréter de telle ou telle manière. Selon l'institution, on va aussi lui donner un sens qui peut varier de celui d'une autre institution. À côté, il y a la liberté de conscience, la liberté d'aller et de venir, le respect des croyances religieuses, la tolérance. Hein. Une société démocratique ne repose pas sur un seul principe. Hein. Au contraire, des sociétés totalitaires qui repose sur le principe unique de la violence. Donc, on voit aujourd'hui l'embarras, évidemment, de rester accroché à des définitions qui soient à peu près communes. Hein. Évidemment, on pourrait lancer le débat sur la laïcité. Vous, moi, vos autres intervenants, chacun a une définition particulière de la laïcité. Hein. Il y a des tonnes de livres, d'ailleurs, sur, évidemment, toute l'errance qu'il peut y avoir derrière la sémantique. Voilà, donc, ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a évidemment des décisions administratives qui vont dans un sens, des décisions judiciaires ou juridictionnelles qui vont dans un autre sens. Voilà, et quelle est finalement la clé, hein, sur quelle base, véritablement, se décide-t-on ? Voilà, alors, il faut faire attention, non pas, aussi, de ne pas condamner des gens, alors c'est un peu triste à dire, mais avant qu'ils aient passé à l'acte. Hein. Heureusement qu'on ne condamne pas un délit d'opinion dès lors qu'elle n'est pas exprimée, cette opinion. Voilà, mais on navigue... Vous savez, la difficulté, c'est que tout donne lieu aujourd'hui à interprétation et à réponse immédiate, parce qu'on n'a pas le temps. On est enfermé dans des délais, il y a des urgences politiques.
Et vous parliez du temps à l'instant, Michel. Notre temps est écoulé. J'aurais voulu vous tenir encore plus longtemps, chacun d'entre vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Une toute dernière question, juste par oui ou non. Elle existe, la liberté d'expression, Amélie Chély ?
On espère. Ce sera d'autant plus compliqué qu'en France, on a en plus cette question du droit au blasphème qui cristallise pas mal les détestations partout dans le monde.
Merci beaucoup. Amélie Chély, sociologue. David Rigoulet-Roche, chercheur associé à l'ERIS. Michel Fiz, sociologue. Pierre Connaissat, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, auteur du livre Avec Dieu, on ne discute pas.